marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions.
Notre témoin ce vendredi sera Michel Zinc sur le thème « Seuls les enfants savent lire ».
Je crois que c'est la présence dans les mémoires qui est vraiment l'indice du succès. Et où, par exemple, Gide dans « C'est le grain de mer » se défend d'avoir lu les contes de Ségur et y avoir pris du plaisir. Merveilleux, quoi. Reniant. Par contre, son père lui lisait le livre de Job, et ça c'est très bien. Très chic. Alors que si vous voulez, Gide a l'hypocrisie que n'a pas Jean-Paul Sartre, hein, qui dit qu'il se vautrait dans ses lectures d'enfants.
Gide, qui a pourtant multiplié les aveux ou les demi-aveux, se refusait donc à admettre qu'il avait pris du plaisir avec la comtesse de Ségur. D'autres mentionnent la comtesse de Ségur seulement parce qu'elle fait partie du cadre réglementaire des références obligées. On se doit de l'avoir lu comme d'avoir lu Jules Verne. On se doit d'avoir pratiqué la bibliothèque rose quand on est une fille, la bibliothèque verte quand on est un garçon, etc., etc. Plutôt que de répéter des palmarès convenus, il est autrement excitant de garder vivantes ces lectures d'enfance telles qu'elles ont été, sans y appliquer les censures a posteriori qu'imprime l'expérience acquise. Si on a lu avec passion la comtesse de Ségur, eh bien, il faut le dire. Et si on a été dupe du petit monde, mi-aristocratique, mi-paysan qu'elle décrivait, il faut en sourire, sans chercher à s'excuser. En réalité, ce qu'on aimait d'ailleurs chez elle, c'est que tout était en l'air au château de Fleurville qu'elle décrivait. On y avait la liberté d'explorer le désordre, pour peu qu'on sache lire un livre jusqu'au bout. La comtesse connaissait bien l'âme enfantine, on s'y reconnaissait, voilà tout. Mais faire revenir en nous ses premiers plaisirs n'est pas une tâche simple. Cela suppose d'être de nouveau conduit par l'enfant qu'on a été.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Bonjour Michel Zinc.
Bonjour.
Ce qui, dans votre cas, n'est pas chose facile, parce que, si j'en crois votre biographie, on vous reconnaît même dans la rue quand on se voit à la maison de la radio, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour collectionner les honneurs. Collège de France, Académie des inscriptions et belles-lettres, dont vous êtes le secrétaire perpétuel, Académie française.
C'est méchant de dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, mais ça doit être vrai. Moi, je mérite cette méchanceté.
Ben non, vous avez été élu à chaque fois.
Ah oui, j'ai été élu.
Et les raisons de l'élection, c'est la multiplicité des éditions critiques que vous avez faites. C'est une de vos tâches très importantes dans votre vie de médiéviste.
J'en ai fait, mais je suis pas un philologue très sûr, de sorte que mes éditions critiques ne sont peut-être pas les meilleures. Mais enfin, passons, je suis pas là pour me flageller. Hein, continue.
Alors, vous avez publié, il y a quelque temps, un livre que vous rééditez, aux belles lettres, sur vos lectures d'enfance. Et le choix que vous avez fait, très différent de celui qui meut une édition critique, c'est de ne même pas relire ce dont vous parliez.
Oui, parce que si j'avais relu ces livres, j'en aurais parlé tel que je les comprends, je les sens, je les juge aujourd'hui. Tandis que moi qui vis beaucoup dans mon enfance et qui ai vécu toute ma vie avec le souvenir, je retiens facilement par cœur de son, le souvenir de ces livres, eh bien, je voulais essayer de retrouver ce souvenir en me concentrant sur lui, et j'essayais de vérifier à travers lui cette proposition « Seuls les enfants savent lire », c'est une extension de la formule du sous-titre du Petit Prince, « Seuls les enfants savent », et c'est une formule excessive, un petit peu démagogique, naturellement. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que les enfants, bon, c'est une banalité, ont des impressions et des sensations extrêmement vives. Donc quand ils lisent, ils perçoivent ce qu'ils lisent avec une acuité extrême. Alors évidemment, il y a des choses qu'ils ne savent pas, donc qu'ils ne comprennent pas jusqu'au bout. Il y a des choses qui peuvent leur échapper, mais ils ont une pénétration qui est plus grande que celle de l'adulte.
J'aime bien votre expression « je vis dans mon enfance ». Alors votre enfance, famille alsacienne, maison de campagne dans le Morvan.
Oui, j'ai jamais vécu en Alsace, mais en fait ça tenait un grand rôle.
C'est loin de la mer.
Ah oui. Ouais.
Eh bien justement, est-ce que c'est un hasard? Le premier livre dont vous parlez avec passion, dans « Seuls les enfants savent lire », c'est « Le voyage d'Edgar » d'Edouard Pesson. Édouard Pesson.
Mais oui, mais Édouard Pesson a écrit des romans de mère, et ce n'est pas un très 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 grand romancier, mais c'est un très bon romancier, mettons du deuxième ordre, mais pas du troisième. Et ce roman, Le Voyage d'Edgar, d'une façon qui serait aujourd'hui impensable, a été publié simultanément, juste avant la guerre, comme vrai roman, roman pour adultes, et comme roman scolaire pour, dans lecture suivie pour la 7e, pour le CM2, avec des notes en bas de chapitre, des illustrations, etc. Et c'était tellement un vrai grand roman qu'il a eu, enfin vous me direz que c'est pas une référence, mais enfin, il a eu le grand prix du roman de l'Académie française.
J'étais sûr que vous alliez en venir à l'Académie française.
Mais non, mais j'en viens. Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais aujourd'hui, est-ce qu'un roman couronné par l'Académie française, quel que soit ce roman, pourrait être donné en lecture suivie au CM2. Non. Et pour toutes sortes de raisons, un, il serait pas convenable, deux, il serait trop difficile, trois, oui, voilà, les enfants du CM2 comprendraient pas. Et le Voyage d'Edgar est un roman, enfin, magnifique.
Edgar a perdu son père, qui a disparu dans les eaux du Groenland. Et Edgar a embarqué sur un bateau qui a beaucoup de mésaventures, qui va de catastrophe en incendie. Et le capitaine l'aime bien et va peut-être lui offrir une faveur.
Quel drame! Comment le nuage volant a-t-il réussi à ne pas couler? Abandonné par son équipage, incendié par accident, réduit presque à l'état d'épave, il porte encore Edgar et Sam, mal en point tous les deux. Quelle situation! Loin de toute terre! Edgar retrouvera-t-il jamais son père? C'est la question que se posent avec angoisse Sam et Edgar.
Approche un peu ici, petit.
Oui, capitaine.
Je suis content de toi. Tu t'es bien conduit pendant l'incendie. Je voudrais te récompenser. Dis-moi ce qui te ferait plaisir.
Je ne sais pas, capitaine.
Réfléchis. Tu as le temps avant qu'on touche terre.
Capitaine, je n'ose pas dire. C'est tellement gros.
Sandler.
Oui.
Le cap au nord, un quart nordé, sur le Groenland. Il y a peut-être en ce moment des hommes qui ont besoin de nous.
Merci, capitaine.
En fait, il a obtenu d'aller vers le Groenland pour retrouver peut-être son père.
Oui. Mais la supériorité de la lecture qu'on fait soi-même, c'est que elle coïncide avec l'idée qu'on se fait des personnages. Et là, le capitaine n'est pas comme cela. Cet enfant trouvé, silencieux, avec cette espèce de douceur permanente et ce mystère au fond de lui, ne ressemble pas à un capitaine ordinaire. Le capitaine que nous venons d'entendre, c'est le capitaine Haddock. Eh bien, le capitaine Haddock, c'est le contraire de Sylvestre tout seul, ainsi nommé parce que tout enfant, on l'a trouvé tout seul sur une plage déserte.
Bon, est-ce que vous allez être satisfait du ton de la lecture que voici, Les Malheurs de Sophie. Alors, Sophie, c'est un personnage central chez la comtesse de Ségur, que vous avez beaucoup lu. Elle n'est ni très intelligente, ni très jolie. Elle est jugée sévèrement par sa belle-mère, Madame Fichini. Alors là, on se met carrément dans la tête d'un enfant quand on entend cette lecture.
Après 2 heures de course et de jeu, comme elles avaient très chaud, elles rentrèrent à la maison. « Dieu, que j'ai soif !» dit Sophie. « Pourquoi ne bois-tu pas ?»« Parce que ma belle-mère me le défend. »« Pauvre Sophie, mais c'est affreux cela !»« Sophie, Sophie !» criait en ce moment la voix furieuse de Madame Fichini. « Venez ici, mademoiselle, tout de suite !» Sophie, Pâle et tremblante se dépêcha d'entrer au salon où était Madame Fichigny. Camille, Madeleine et Marguerite avaient peur pour la pauvre Sophie. Elles restèrent dans le petit salon, tremblant aussi et écoutant de toutes leurs oreilles. « Approchez, petite voleuse, pourquoi avez-vous bu le vin ?»« Quel vin ?»« Maman, je n'ai pas bu de vin !»« Quel vin ? Menteuse !»« Celui du carafon qui est dans mon cabinet de toilette. »« Je vous assure, maman, que je n'ai pas bu de votre vin, que je ne suis pas rentrée dans votre cabinet. » Ah, vous n'êtes pas entrée dans mon cabinet. Et vous n'êtes pas entrée par la fenêtre. Et qu'est-ce donc que ces marques que vos pieds ont laissées sur le sable devant la fenêtre du cabinet?
Ça vous convient mieux?
Oui. 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 En fait, le ton du récit est celui de la comtesse. Lu par des petites filles, cela devient différent. Car Sophie, dans les malheurs de Sophie, c'est Sophie Rostopchine. Comtesse de Ségur. C'est pour ça qu'elle est si sévère avec le personnage. Il y a d'ailleurs des détails dans les malheurs de Sophie qui renvoient directement à l'enfance russe de la comtesse et qui ne peuvent pas se passer en Normandie, où c'est situé. Ce qui va bien dans la lecture que nous avons entendue, c'est que ce sont des voix vraiment de petites filles et que les malheurs de Sophie est un livre pour de tout jeunes enfants. Et les romans de la comtesse de Ségur varient dans leur public, selon l'âge des petits-enfants auxquels elle les destinait. Le dernier, Après la pluie et le beau temps, est un roman pour adolescents, pratiquement. Et déjà, la suite, si on veut, des malheurs de Sophie, les petites filles modèles, les vacances, où c'était tout est en l'air au château de Fleurville, s'adresse à des enfants un petit peu plus grands. Les malheurs de Sophie, c'est le plus touchant, parce que c'est le plus autobiographique, au moins moralement. Ce n'est peut-être pas le plus intéressant.
Mais votre mère, qui appartenait au milieu de la moyenne bourgeoisie, vous disait, Michel Zinc, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ce château de Lorne, à ces enfants d'aristocrates qui auraient été jardiniers à cette époque-là?
Voilà. Ma mère, enfin, mon père était un professeur d'université, mais mes parents étaient tous les deux, de façon différente, de milieux très simples à l'origine. Puis ma mère avait des idées démocratiques. Elle me disait, si tu avais vécu à l'époque de la comtesse de Ségur, tu aurais été le petit garçon du jardinier, pas le petit garçon du château. Ce que je savais très bien, je percevais bien les différences sociales et ce qu'elle en faisait. Mais ça m'était égal, j'étais content d'être le petit enfant du jardinier. Et ce que je vois dans la comtesse de Ségur, et qui y est effectivement, et qu'on ne veut pas toujours voir, c'est que la comtesse de Ségur a une sorte de, a une générosité, et que la profondeur de son christianisme, de son esprit évangélique, fait qu'elle considère vraiment les hommes comme égaux et qu'elle lutte constamment entre, c'est même pas ses préjugés de classe, mais enfin le fait qu'elle appartient à la classe qui est la sienne, et la conviction que, au fond, ça ne compte pas.
J'imagine ce que pouvait être la conversation entre vos enfants et vous dans la voiture. Vous racontiez des histoires.
Je racontais énormément d'histoires. Alors, j'ai trop le respect de la littérature chevillée au corps pour leur avoir raconté la comtesse de Ségur, car je n'aurais pas tout su par cœur et j'aurais déformé son style, qui est admirable. Et donc, je leur lisais la comtesse de Ségur, et en voiture, je leur racontais soit des romans du Moyen-Âge, de toute façon, je ne pouvais pas les lire en octosyllabe du XIIe siècle, donc il fallait bien adapter, soit des contes de fées que j'ai aimés au premier degré jusqu'à un âge que je n'avouerais pas, soit des histoires que j'inventais.
On va passer deux générations, si vous voulez bien, Michel Zinc. Vous avez 9 petits-enfants. Alors, on dit maintenant que les petits-enfants sont biberonnés sur les chaînes à eux destinées, sur YouTube. Par exemple, il y a une grande enquête du Wall Street Journal qui explique qu'on ne sait pas, d'ailleurs, aux États-Unis, qui possède ces chaînes, que parfois les individus qui font leurs programmes ne sont pas recommandables. Nous, ce qu'on vous propose, c'est pour les tout petits. Il y a même une recommandation implicite pour les podcasts natifs pour enfants de France Inter au lit.
Bonjour, tu aimes rire, chanter et t'amuser? Bienvenue sur la chaîne des Tétonies. Cette chaîne est faite pour toi. Dans des comptines, des histoires et des vidéos pour apprendre en s'amusant. Tétonies
France Inter. fait au lit. O-L-I.
La Bibli des petits.
Je suis pas petit, je suis grand.
Voilà, l'histoire est finie.
Au revoir les enfants.
C'est presque aussi bien que les récits dans la voiture de Michel Zinc. Vos petits-enfants, oui. À 3, 4, 5 ans, comment lisaient, comment oui. concevaient-ils le rapport avec le livre?
Vous savez, sont quand même des petits héritiers, donc le livre était naturel pour eux. Et lorsqu'ils étaient petit, j'avais vraiment fait comme avec mes enfants, je racontais les mêmes histoires, j'aurais lu à peu près les mêmes livres, ça marchait différemment, mais enfin, ça marchait aussi bien. Ils ont toujours su non, que le livre est important. Certains, par exemple, j'ai une petite fille qui est aujourd'hui en hypocagne, qui aimait beaucoup que je lui raconte, et qui n'aimait pas tellement que je lui lise, car elle préfère lire toute seule. Et sa petite sœur, qui a 2 ans de moins qu'elle, elle aime bien qu'on lui lise. C'est un rapport, je ne sais pas, à la voix, à la façon dont on absorbe soi-même ce qu'on lit, à la place de l'imagination, selon que on préfère faire travailler uniquement son imagination ou qu'on préfère la faire travailler, ce qui est un peu mon cas, à la fois sur le texte et sur la façon dont vous avez lu le texte. Moi, j'aime bien qu'on me lise à haute voix.
Mais de toute façon, vous avez été bienveillant, toujours, avec vos petits-enfants.
Au trait, hein, oui.
Comme le personnage du petit Nicolas, là. C'est pas un académicien, c'est un ministre qui arrive dans une classe.
Les voilà. Je veux que vous soyez exemplaires. Le premier qui rit aura la punition de sa vie. C'est bien compris ? Voilà.
Ah. Alors asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment se déroule cette année scolaire, hein? Ils ont besoin de se détendre, ces enfants. Bon. Alors, qu'est-ce que vous étudiez cette année?
Les fleuves.
Ah, les fleuves. Bon, nous allons interroger quelqu'un.
Oui, bien sûr, Agnan, si tu veux bien te lever.
Non, pas toi. Toi, là-bas. Comment t'appelles-tu, mon garçon?
Clotaire, monsieur.
Alors, nous n'avons pas Clotaire, nous n'avons pas Aignan, mais nous avons Enguerrand. Bonjour, Enguerrand.
Bonjour, Jean.
Enguerrand Carlier, qui a été la mascotte de l'équipe des Belges quand il est venu faire son stage de 3e, il a 14 ans, à France Inter. On peut essayer, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, de reconstituer un dialogue, un peu comme dans la classe du petit Nicolas, c'était le film de Laurent Tirard.
Oui,
qu'est-ce que vous demanderiez à Enguerrand?
Vous voulez que je me mette dans la peau du ministre?
Oui, avec, mais aussi gentiment, vous voyez.
Oui, avec le ton du ministre. Oui. Oh non, jeune homme. Non, mais oui, j'aimerais savoir ce que Enguerrand lit, ce qu'il aime lire. Mais dès qu'on le demande comme ça, on prend la voix du ministre. Donc, mon cher Jean Lebrun, c'était un piège. Mon cher Enguerrand, qu'avez-vous commencé à lire quand vous avez commencé à lire? Par quoi avez-vous continué?
Alors, pour ma part, j'ai commencé avec un livre qui s'appelle « Drôle de petite bête », qui m'enseigne des créatures, notamment des abeilles, des araignées, et qui ont des histoires chacune. Et donc, ce premier livre que j'ai lu, je ne l'ai pas lu tout d'abord, mais on m'avait raconté l'histoire. Et un jour, je me suis décidée, j'avais appris à lire donc à l'école, et je me suis décidée à lire et à lire un livre. Et quand je l'ai lu, c'était pas comme on me le racontait. Justement, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on lit un livre, on ne le perçoit pas comme on se le fait lire, puisque c'est l'imagination qui prend part au ton qui est utilisé pour lire.
Tout m'impressionne dans ce que vous avez dit, mon cher Enguerrand. Un, d'abord que ce premier livre ait été un livre à la fois, comme dirait le ministre ou le directeur de l'école, divertissant et instructif. Un livre sur les petites bêtes, on apprend des choses sur les petites bêtes. Et ensuite, que vous ayez eu cette idée, commençant à lire vous-même, de commencer par un livre qu'on vous avait déjà lu, cette sorte de vérification de ce qu'est la lecture personnelle au regard de l'audition d'un livre, qu'on vous lit, et la conclusion que vous en tirez.
Et alors après, est-ce que une recommandation de vos parents, de votre mère, a joué dans l'appartement? Vous avez deux bibliothèques. Hein.
C'est exact. Il y a deux bibliothèques, une qui est utilisée pour les parents, qui est donc une bibliothèque avec des livres beaucoup plus compliqués à lire. Et une bibliothèque qui est là pour nous, donc les enfants.
Alors il y a les livres de votre frère aîné, et puis il y a les livres recommandés par votre mère.
Alors, avant, j'avais pas très envie de lire, j'étais beaucoup plus attirée par les BD. J'avais pas... Les livres, c'était long pour moi, j'avais du mal à rentrer dedans. Et j'avais été très fortement conseillée à lire un livre qui s'appelle La guerre des clans. Et donc j'avais commencé à le lire. Je me suis dit, bon, on va essayer, mais j'étais sûre de rien. Et au bout d'un moment, j'en avais assez, et je me suis arrêtée, et j'ai reposé le livre dans la bibliothèque. Et puis j'ai pris le livre, le second tome, et là, j'ai lu le résumé, et ça m'a donné envie de lire le livre, parce que je savais pas, il y avait des nouvelles choses, et ça m'a vraiment incité à le lire. Et depuis, j'ai continué jusqu'au cycle 4, et puis je me suis arrêtée.
Ah oui, c'est long, oui.
Et je suis passée à autre chose.
Oui, oui. Mais c'est vraiment intéressant qu'à un moment, la lecture même vous ait lassé, et puis en lisant le résumé, ça vous a relancé. Donc, parce que je trouve que souvent, les livres qui paraissent aujourd'hui, aussi bien pour adultes que pour enfants, les romans, ça, sont trop longs. Je ne sais pas si on tire à l'aller, on développe trop, on a compris, on voudrait que ça avance, le style n'est pas assez nerveux, les effets sont trop étirés, et je l'ai remarqué quelquefois dans des livres pour enfants. Est-ce que c'était l'effet que ça vous faisait, ou est-ce que vous ne voyez pas bien comment ça allait se poursuivre, et en lisant le résumé, vous avez vu qu'il y avait des possibilités de péripéties qui vous avaient échappé au départ?
Bah, c'est un peu ça en fait. Le livre était extrêmement long au début. Et j'avais du mal à rentrer dedans. Ça commençait à être un petit peu répétitif sur le début. C'était vraiment assez lent. Et en lisant le résumé, j'ai vu des avancées, des transformations dans le personnage. Et je me suis demandé comment c'était passé. Parce que moi, je n'avais rien vu de nouveau. C'était toujours la même chose. Et je me suis dit, j'ai peut-être loupé quelque chose dans ce livre en m'arrêtant là. Et donc, j'ai décidé de reprendre le livre. Et je me suis remis à le lire.
Mais ce qui est long ne vous effraie pas, Enguerrand, Le Seigneur des Anneaux?
Ah, Le Seigneur des Anneaux, c'est long comme livre, mais c'est vraiment quelque chose qui est entraînant. Le début reste un peu long, mais une fois qu'on le passe, une fois qu'on le lit, il est très facile de rentrer dedans. Il m'arrivait de lire jusqu'à très tard le soir sans me rendre compte de l'heure ni des pages que je lisais, puisque j'étais vraiment dans le livre. C'est vraiment quelque chose de formidable et de fantastique à vivre.
Oui. Vous êtes embêté, là, monsieur l'académicien, monsieur le ministre, parce que vous n'avez rien lu de tout ça?
Ah, c'est Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu.
Ah,
oui, non.
Parce que c'est un professeur Tolkien qui l'a écrit.
Oh, mais pourquoi me ramener toujours
Mais vous aimez bien vous définir comme un professeur. Un peu cuistre même, dites-vous.
Oui, parce que j'aime mieux me battre avant que d'autres me fouettent de verre. Effectivement, bon, c'est un professeur, Tolkien. Et alors, j'ai une grande admiration, moi, encore plus, pour son collègue et ami C.S. Lewis, et pour les chroniques de Narnia. En particulier, là aussi, c'est très long, les deux premiers sont le génie à l'état pur. Ensuite, bon, c'est un petit peu répétitif. Et j'admire beaucoup aussi ça, les romans de science-fiction de C.S. Lewis.
Donc vous notez la recommandation,
Guérin. Notez, jeune homme.
Et les classiques?
Dans les classiques qui m'ont marqué, il y a principalement Le Cid, que j'avais, qui avait été donné en option à lire l'année dernière, qu'on nous avait dit, le professeur nous avait distribué. Et il nous avait dit, vous pouvez faire comme vous le voulez, c'était pas obligatoire, mais vous pouvez le lire. Parce qu'on parlait du théâtre et de la tragicomédie, donc on pouvait le lire. Et donc j'avais choisi de lire ce livre, et ce livre est extrêmement entraînant dans sa manière d'écriture, puisque c'est un livre complètement écrit en vers, et donc c'est très compliqué. Mais quand on le lit, on est pris dans un rythme et un cercle qui nous fait continuer à le lire.
Ah, ça, c'est merveilleux. Ça, il faudra là couper cet extrait et le diffuser dans toutes les écoles de France. Hein, ce qui est l'intérêt d'une œuvre en vers. Hein, dire c'est entraînant. Parce que c'est en vers, et finalement, enfin, si j'ai bien compris, et en substance ce que dit Enguerrand, le rythme du vers, les rimes, les images qui viennent du vers lui-même, et parce que le mouvement de l'Alexandrin de Moindre, les rimes les appellent, tout cela à la fois est difficile, rend un peu difficile, vous avez une formule pour le dire, mais en même temps, c'est quelque chose qui empêche de s'arracher à la lecture, parce qu'on est porté par ces vers qui vous entraînent toujours vers la rime suivante et la fin de la tirade. C'est magnifique d'avoir dit ça.
Vos parents vous laissent accéder à leur bibliothèque ?
Ah oui, ils sont très ouverts à ça. On peut toujours aller puiser dans leur bibliothèque. Même parfois, il arrive que certains livres qu'ils avaient pu lire avant puissent être accessibles pour nous et qu'on nous conseille à lire. Pas forcément obligatoire cela, puisqu'on a chacun aussi nos lectures liées à l'école. Mais on peut toujours, si on est en manque, essayer d'aller voir si quelque chose nous intéresse.
Donc il vous manque un plaisir essentiel dans la lecture, le goût de l'interdit, aller voir ce qui nous est interdit.
Y a-t-il un enfer dans la bibliothèque de vos parents ?
On n'a pas beaucoup d'interdictions niveau lecture, puisque c'est quelque chose qui est très libre et qui est très conseillé chez nous, puisque c'est quelque chose qui est assez instructif, la lecture. Donc mes parents préfèrent quand même nous laisser lire et faire en sorte qu'on lise plus.
Oui.
Vous, c'était une consolation, la lecture, Michel Zinck ?
Oui, ben c'était vraiment ma vie. Et puis, il y avait des livres qui restaient dans la maison de campagne que je retrouvais chaque été, et le rite était de les relire chaque été. Il n'y avait pas de livres spécifiquement interdits, mais je raconte que un jour, et je puisais dans la bibliothèque de mes parents, bon, j'avais mes livres dans la mienne, et sinon, je puisais dans la bibliothèque de mes parents, et ma mère m'a surpris, non, je pensais pas que je faisais quelque chose de mal, en train de lire Gigi de Colette. Ma grand-mère me recommandait la lecture de Colette, qui écrit très bien, c'était très bien écrit. Et ma mère m'a arraché Gigi des mains en me disant que c'était pas du tout pour moi. J'étais plus jeune qu'Enguerrand maintenant. Alors, naturellement, j'ai vécu dans le désir de poursuivre la lecture de Gigi. Et plus tard, j'ai repris Gigi. Je me suis aperçu que la première fois, je l'avais lu presque jusqu'au bout, mais que j'avais rien compris. De sorte que c'était pas dangereux. On pouvait très bien me laisser lire Gigi. Comme dit le personnage de Feydeau, les jeunes filles, ça n'a pas d'importance. Celles qui comprennent pas ça leur apprend pas grand-chose, et celles qui comprennent, ça leur apprend rien du tout. Donc on peut tout faire lire.
Merci à vous, Michel Zinck, aux belles lettres. Seuls les enfants savent lire. Et merci à vous, Enguerrand.
Merci, Enguerrand.
Cette émission a été préparée par Elinka Negulesco. Alexandre Chenet à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.